Aujourd'hui dans Affaires Sensibles, l'histoire d'un drame social, les violences conjugales. Il y a quelques jours, place de la République, des centaines de femmes se sont retrouvées portant à bout de bras ou sur des pancartes le hashtag MeToo, car elles aussi ont été victimes de harcèlement et de violences. Depuis que quelques articles ont révélé avoir été victimes de harcèlement et d'agressions sexuelles de la part du producteur américain Harvey Weinstein, une parole s'est libérée sur les réseaux sociaux, puis dans la rue. Chaque jour, des femmes sont victimes de violences de tout ordre. Vendredi dernier, c'est la violence conjugale qui a fait la une du magazine Elle. L'an dernier, on a recensé 123 victimes, autant de femmes mortes sous les coups de celui qu'elles avaient choisi comme amoureux, amant, mari, père de leur enfant. Combien sont-elles à en avoir parlé à leurs proches, à porter plainte? Combien n'ont pas été assez protégées? Comme en écho aux 9 femmes qui ont témoigné dans le magazine Elle, vous allez entendre, dans le cadre de cette émission, d'autres voix de femmes qui, entre 1975 et 2015, ont parlé à la radio ou à la télé de leur quotidien, des violences conjugales, qu'elles soient physiques, sexuelles ou psychologiques. Par elles et avec elles, nous tenterons de comprendre les mécanismes du fléau, leurs souffrances et leurs résistances, ainsi que l'emprise que ces hommes exerçaient sur ces femmes, tout en évoquant les évolutions législatives ainsi que la réalité des chiffres aujourd'hui en France en 2017. En seconde partie d'émission, nous recevrons Françoise Brier, directrice de la Fédération Nationale Solidarité Femmes et membre du Haut Conseil à l'égalité. Affaires Sensibles, une émission de France Inter en partenariat avec l'INA, préparée aujourd'hui par Jean Bulot, coordination Christophe Barrer, réalisation Fabrice Lègle.
Fabrice Drouel, Affaires Sensibles, sur France Inter.
Votre mari vous battait, vous martyrisait sous l'emprise de l'alcool?
Souvent. 3-4 fois par semaine. Me marcher dessus, me piétiner même. Il me brûlait avec sa cigarette, il me mordait.
Déjà, quand la première gifle tombe, on n'y croit pas.
Quand il me frappait, il allait jusqu'à ce que je craque. Soit violemment, il me prenait mes clés, mon carnet de chèques et mon argent. De telle sorte que je me retrouvais à l'extérieur, démunie, sans argent.
C'est toujours la question qu'on pose aux femmes qui sont battues, pourquoi elles ne partent pas? Eh bien, je pense que quand on vit avec quelqu'un, quand on choisit de vivre avec quelqu'un, c'est pas par pur hasard, c'est pas n'importe qui qu'on trouve dans la rue un bon matin et qu'on amène chez soi avec sa valise.
Les gens le savaient. Dans les premières fois, je pense que quelqu'un a appelé police secours.
Bah, pour moi, ce qui a été important, c'était de me dire que la seule façon de l'aider, c'était de le quitter. Parce qu'on ne peut pas, en restant, lui laisser ce message que ce n'est pas tolérable que de frapper sa compagne et d'avoir de droit de mort sur elle.
Toutes les femmes que vous allez entendre ont été victimes de violences conjugales, de coups de poing et de coups de folie de leur mari, conjoint ou ex. Selon les émissions dans lesquelles elles ont témoigné, elles sont présentées sous l'appellation de Madame J, Madame R, Madame T, ou sous les prénoms d'Anne, Morgane, Leïla. Elles ont 20 ans, ou 2 ou 3 fois cet âge. Elles aiment depuis autant d'années, ou simplement depuis quelques mois, l'homme qui les bat. Elles vivent à la campagne ou en ville, elles sont chômeuses ou salariées, mariées ou divorcées, mères ou non, issues des classes bourgeoises ou populaires. Ces femmes ont en commun d'être tombées amoureuses d'un homme violent, un amour qui est devenu un piège, dont certaines ont su s'échapper. Mais en 2016, 123 femmes n'ont pas réussi à partir à temps. Pour cet amour qu'elles espéraient heureux, évidemment, elles ont perdu la vie. Et cette année, combien sont mortes dans les mêmes conditions? Dans les journaux, c'est souvent derrière les formules crime passionnel, drame familial, dispute mortelle que se cachent ces homicides. Pour le journal Libération, la journaliste et romancière Titou Lecoq a entamé le décompte macabre de ces crimes en feuilletant la presse régionale et nationale, ainsi que le fil des dépêches des agences de presse. À chaque mois de cette année 2017, elle énumère les noms et raconte les parcours de ces femmes disparues, ainsi que le profil de ces hommes qui ont assassiné celles qui partageaient ou avaient partagé leur vie et avec qui parfois ils ont eu des enfants. En janvier, en Gironde, Franck, un ancien élève de HEC qui travaillait à Londres dans la finance, a tué Sandrine avec qui il avait eu 2 enfants. En mars, dans la Marne, c'est Hélène qui est morte après avoir reçu 2 coups de couteau au cœur et au poumon assénés par Yannick, son ex-compagnon, pompier volontaire, dont elle était séparée depuis 1 mois. En mai, Sadia est morte de 2 balles dans la tête. Damien, son compagnon, agent communal en Isère, s'est suicidé par la suite. en août. Geneviève, une ancienne institutrice de 72 ans, Laura, 18 ans, qui venait d'obtenir son bac, et Aurélie, 29 ans, mère de 3 enfants, sont mortes. C'était au mois d'août de cette année. C'était aussi, il y a 42 ans, un autre été. Elle s'appelait Paulette. Elle aimait Alain, il la tua de ses propres mains. Le 26 juin 1976, à Strasbourg, on a jugé cet assassin. Cette année-là, les violences conjugales commencent à devenir un sujet d'actualité et de lutte. Au premier jour du procès, des militantes déposent un cercueil orné de fleurs pour Paulette et pour toutes les autres. Paulette et Alain avaient 23 ans, ils étaient déjà parents d'une petite fille. La vie de cette femme était tranquille, banale, voire monotone. C'était une jeune mère, mariée et ouvrière, qui le soir devait faire des ménages pour boucler ses fins de mois. En rentrant, son homme était souvent ivre, grossier, violent. 16 mois avant de mourir, sous ses coups, Paulette avait entamé une procédure de divorce. Une ordonnance de non-conciliation et un domicile séparé avaient même fait rare à l'époque, été actés. Pourtant, la justice n'a pas su protéger Paulette de l'homme qui la menaçait. Le soir, il venait chez elle, lui demandait de ne pas le quitter, puis il restait là. Le jour de sa mort, sa mère et son frère étaient passés la voir. Alain était là. Malgré les menaces, eh bien, ils l'ont laissé seul, avec lui. Même la police avait été prévenue et avait fait le déplacement. Pourtant, Alain n'a pas été arrêté. Supportez-le jusqu'à lundi matin. Quand il partira au travail, vous ferez changer votre serrure, auraient dit les policiers. Oui, sauf que le lundi en question n'est jamais arrivé pour Paulette. À la fin du procès, Alain était condamné à 20 ans de prison. Mais comme l'a rappelé l'avocat général, Paulette était en danger de mort. Elle a demandé de l'aide, mais personne n'a pu lui porter secours. La seule réponse du corps social, c'est après coup de punir le meurtrier. Et l'on demande alors, en cour d'assises, une peine exemplaire et dissuasive pour que soit réglé le problème des femmes battues. Des Paulettes, victimes de violences conjugales, nos journaux depuis des décennies en sont remplis. L'année de sa mort, d'autres femmes sont victimes de violences conjugales, comme celle-ci qui raconte cette peur qui l'accompagne chaque jour.
Il vous battait ?
Énormément.
Mais vous n'alliez pas voir la police, les gendarmes ?
Ben, je suis allée une ou deux fois, ils me disaient que c'était des affaires de ménage, qu'il fallait s'arranger. C'est inimaginable, il y a certaines personnes qui comprennent la peur, mais beaucoup d'autres ne savent pas ce que c'est la peur, elles ne peuvent pas comprendre. Donc c'est uniquement la peur qui m'a empêchée de partir de chez... de partir, de prendre mes enfants et de m'en aller.
Vous avez eu tellement peur qu'un beau jour, vous avez sauté du premier étage pour lui échapper.
Oui.
Et vous vous êtes blessé.
Oui, uniquement la peur.
Certes, au XIXe siècle, les cours d'assises et les tribunaux correctionnels ont peu à peu défini les traits de ces délits qu'on appelait alors des histoires de couple. Mais à part dans ces salles d'audience, les violences conjugales étaient toujours recluses au sein du cercle intime des familles ou dans des discussions entre voisins, telle une rumeur qu'on évite d'ébruiter. Avez-vous vu madame ? Non, la dialité depuis des jours. Oui, elle est sans doute une nouvelle fois tombée dans l'escalier. Et puis, madame réapparaissait jusqu'à la prochaine fois. Voilà comment on parlait de ces choses-là, sans jamais oser nommer le crime. Voilà comment on se refusait à briser la fausse paix du ménage. Comment on acceptait qu'un homme batte sa femme. Il faut attendre le début des années 70 et l'essor des mouvements féministes pour que la violence conjugale devienne un objet de lutte, puis une question de société à part entière. En France, le basculement s'inscrit en 1975. Cette année-là, plusieurs signes montrent une prise de conscience collective. En août, l'association SOS Femmes Alternatives crée une première permanence téléphonique à Paris, mais aussi à Marseille, à Lyon, à Strasbourg, Rennes, Toulouse et Lille, pour recueillir la parole de ces femmes battues. En novembre, à la demande de François Giroud, chargé de la condition féminine dans le gouvernement Chirac, sous Giscard, on met en place, dans chaque commissariat, une policière chargée de recevoir les plaintes de femmes maltraitées. 1975, c'est aussi l'année de la publication en France du livre « Crie moins fort, les voisins vont entendre », traduction d'un ouvrage anglais écrit par Erin Pidsey, qui a fondé en 1971, dans la banlieue de Londres, le premier refuge pour des femmes battues en Grande-Bretagne. Ce livre regroupe une série de témoignages de femmes qui ont choisi de raconter leur quotidien sous l'emprise d'un homme violent. Et comme en écho à ces paroles venues d'outre-Manche, France Culture ouvre son antenne à des victimes françaises et parfois à des enfants devenus grands.
Je n'ai jamais été battue, mais ma mère a été battue pratiquement journellement. Elle a duré durant toute mon enfance jusqu'à l'âge de 10 ans. Moi et mon frère demandions à ma mère de se défendre réellement. Nous avions l'impression qu'elle essayait d'échapper au coup, qu'elle essayait de s'enfuir. Dans ces cas-là, il la rattrapait par les cheveux, il la traînait sur 10 mètres, mais qu'elle ne se défendait pas réellement. C'est-à-dire qu'elle n'essayait pas elle-même de donner des coups. Nous courions très souvent chez les voisins et nous demandions aux gens de nous aider. Et ces personnes nous repoussaient également. Enfin, ils trouvaient n'importe quelle excuse pour ne pas venir, pour ne pas nous aider. Et à ce moment-là, nous rentrions. Et ma mère se retrouvait, bien entendu, par terre comme d'habitude, en sang, en larmes. Et nous ne pouvions absolument rien faire. Nous ne pouvions pas appeler qui que ce soit à l'aide parce que personne ne nous aidait. Absolument personne.
Les enfants sont souvent les grands oubliés des violences conjugales, et pourtant ils sont les premiers témoins des gifles, étranglements, insultes, cris étouffés dans le lit conjugal et parfois meurtres de leur mère. Témoins, mais surtout victimes, eux aussi, ils sont aussi parfois la cause de la colère du père, l'étincelle de la tension avec la mère. Les dernières études montrent que la moitié des enfants exposés à ces violences présentent un trouble de stress post-traumatique qui se traduit souvent par des cauchemars et des flashbacks où ils revivent ces scènes. Ce pourcentage s'élève à 100% pour les enfants témoins de meurtres. Ces gosses présentent souvent des troubles de la santé, asthme, retard de croissance, dérèglement alimentaire. En écoutant ces témoignages, ces bribes de vie, beaucoup d'entre vous doivent se poser cette question lancinante. Mais enfin, pourquoi ces femmes restent-elles avec leurs compagnons ou maris tortionnaires ? Pour les enfants, souvent, oui. Elles culpabilisent à l'idée de briser le foyer qu'elles ont construit. Elles ont peur de mettre en péril le parcours scolaire dû à une séparation. Mais aussi parfois, c'est pour eux que certaines d'entre elles décident de partir, d'arrêter de les rendre témoins des coups, des humiliations. Et c'est pour ces femmes qui trouvent le courage de partir qu'en 1976, SOS Femmes Alternatives ouvre à Clichy le centre Flora Tristan, l'un des premiers en France spécialisé dans l'accueil des femmes battues et de leurs enfants. Dès les premières semaines, Flora Tristan affiche complet. Parmi les victimes qui se sont réfugiées ici, cette femme qui témoigne.
J'étais battue violemment et c'était vraiment insupportable. C'était pas possible à supporter.
C'était pour quel motif ?
Ben, pour des rien, pour des oui, pour des non, pour des... Par exemple, prends-moi cette chaise, enlève cette chaise de là, je dis non. Enlève cette chaise de là, je dis non et voilà, c'est parti. Pas plus que ça, hein, c'est pour les rien.
Votre mari considérait cela comme normal de vous battre ?
Ah oui, tout à fait normal, tout à fait. D'ailleurs, il me traitait parce que... Il disait que je ne marchais qu'avec des coups. Et je me demandais dans ma tête si vraiment j'étais une bête ou je sais pas quoi.
Vous avez l'impression d'en être sortie maintenant ?
Ah oui, totalement. Ah oui, vous savez, le premier pas, c'est très très dur. Le premier pas, le plus difficile, c'est de partir. Et une fois qu'on est parti, bon, ben, évidemment, il y a les difficultés qui s'enchaînent. Mais le plus difficile, c'est de partir.
Le plus dur, c'est de partir, dit-elle. Quand on se plonge dans les entretiens d'anciennes femmes battues, on observe souvent un déclic, une gifle de trop, un changement de regard, une peur soudaine de mourir. Parfois, un simple message à la radio peut jouer le rôle d'électrochoc. C'est ce qui arrive un mardi d'avril 1979. Ce jour-là, à la télévision, les dossiers de l'écran ont prévu un numéro sur les femmes battues. Comme à chaque fois, le matin de l'émission, une bande-annonce est diffusée à la radio. Et c'est ainsi qu'on découvre à la télé ce soir-là le visage tuméfié de Madame Lim. Elle doit avoir une cinquantaine d'années. Elle est secrétaire. Pour l'émission, elle a revêtu un joli chemisier recouvert d'un pull rose. Elle a brossé ses cheveux, mis du rouge sur ses ongles, mais elle n'a pas pu cacher le violet qui entoure son œil droit, encore gonflé. Dans la nuit de samedi à dimanche, elle a été une nouvelle fois battue par son mari. Ils ont quatre enfants, désormais grands. À cause des coups, elle avait demandé le divorce. Mais il y a moins d'un an, seule, fragile financièrement, elle a décidé de retourner avec lui. Elle l'a aimé, elle l'aime sans doute toujours, et espère encore que tout peut s'arranger. Mais les coups sont revenus.
Pourquoi lui réagit-il comme ça?
Oui.
Parce que en fait, c'est un garçon qui est très bien, très gentil, enfin avec tout le monde, n'est-ce pas? Je suis sûre qu'il y a des tas de gens qui vont être très surpris, peut-être s'ils le connaissent. Mais c'est un garçon qui a eu... Enfin, moi, je l'explique comme ça. Il a des problèmes, comme beaucoup de gens en ont, des problèmes professionnels, oui. Des problèmes avec des personnes qui côtoient. Ça ne va pas toujours très bien dans son travail, dans ses rapports avec des gens avec lesquels il fait du sport, par exemple. Bon, des petites choses tout à fait banales. Et comme il ne veut pas se faire voir sous son vrai jour, n'est-ce pas, lorsqu'il rentre à la maison... Eh bien, c'est sur moi qu'il se défoule. Ah, et c'est toujours lui qui a le dessus, parce que je ne peux pas, croyez bien que si je pouvais, je le ferais, mais je ne peux pas le battre, il est trop fort pour moi.
Derrière cet amour à en perdre la vie se loge un mal qu'on nomme emprise. C'est ainsi qu'en 1979, de l'autre côté de l'Atlantique, une psychologue américaine, Leonore Walker, nomme ce cycle qui recommence sans cesse, ce mouvement perpétuel de la violence conjugale. Elle le définit en quatre étapes. Tension avec agressivité et reproche, explosion de la violence, coups et blessures, et puis lune de miel assortie d'excuses. Les premiers temps de la vie semblent alors réapparaître, mais le cycle recommence. Comme quoi, même si les histoires de ces femmes battues sont différentes, elles répondent au même mécanisme. À la demande de leurs compagnons, ces femmes s'éloignent de la sphère sociale, familiale, amicale. Parfois dépendantes financièrement, elles sont souvent à la merci de leur conjoint qui leur confisque chéquier, carte bancaire ou papier d'identité. Il y a le contrôle et puis le dénigrement. C'est ce qui est arrivé à cette femme âgée de 57 ans au début des années 90. De ses 8 mois d'enfer, dont elle a gardé de lourds handicaps, elle témoigne au micro d'Anne Pastor, de France Inter.
Quand il s'absentait la nuit, il m'enfermait, prenait les clés dans la chambre. Et quand il revenait, c'était des atteintes physiques et morales très très dures. En plus, quand il m'enfermait, je n'avais pas le droit d'écouter la télévision, m'informer. Je n'avais pas le droit de mettre un disque. Je n'avais pas le droit de manger sans lui. Je n'avais pas le droit de parler à qui que ce soit, surtout communiquer, divulguer. C'était interdit pour moi. Je n'étais plus moi. Il avait réussi à tuer ma personne et ma personnalité. J'ai réussi à me sauver. Mais la veille, il m'avait battue et violée. On m'a emmenée dans un centre d'hébergement pour femmes battues. Oui, mais seulement dans ce centre, je suis restée quelques jours. On m'a fait comprendre qu'il ne fallait pas que je reste dans la région parce que j'étais en danger. J'ai dû quitter la région. C'est un vrai massacre dans mon cerveau. Je dois lutter. C'est mon devoir pour moi et pour d'autres femmes.
D'autres femmes, 20 ans plus tard, c'est le même mécanisme qui place Morgane sous l'emprise de Yacine. Des premiers mois de leur histoire, elle se souvient de moments idylliques. Il était beau, protecteur, séducteur, plein d'humour, mais aussi jaloux. Une jalousie qui a tout envahi. Pour lui, Morgane a accepté de voir moins ses amis. Elle a quitté Paris pour la campagne. Mais peu à peu, il lui impose sa loi. Chaque jour, il lui reproche de nouvelles choses, l'humilie quand il estime et décrète qu'elle n'a pas été à la hauteur, et puis il lui donne un premier coup. À l'époque, elle est enceinte. L'enfant naît, la violence se poursuit, comme un cycle, comme une habitude. Chaque jour, un compte à rebours qu'il annonce, puis les coups, comme promis.
De là, il appelle ce qu'on appelle le compte à rebours, c'est qu'il va me dire... On couche tous les jours notre fils à 14h. Admettons, il est 10h du matin. Il va me dire, c'est quoi ? Dans 4h, je te défonce. Et ça va faire sa matinée jusqu'à 14h, où il va me dire, dans 3h30, je te défonce. Dans 1h, dans 30 minutes, plus que 10 minutes, c'est chaud pour toi. Donc, 2h moins 10, je monte, je couche mon fils et je sais que je dois descendre ces fameuses marches pour me présenter à lui. Entre-temps, il a fermé la porte à clé, que les clés sont dans sa poche, il a fermé les rideaux, et souvent il met soit de la musique, soit la télé assez fort, pour être sûre de... Il prépare, en fait, sa scène. Et là, il va me dire, viens devant moi. Donc, je me présente à lui, hein, y a pas, je me mets devant lui. Et là, il fait ce qu'on appelle des feintes. Il va faire semblant de me taper, de me mettre des coups. Il y a un moment où je vais cligner des yeux, où je vais avoir peur. Et de là, ça va être, il va me mettre la première claque en me disant, je t'avais dit de résister. Et lui-même, dans son délire, va me dire, tu vas voir, je vais te rendre plus forte. Et donc, du coup, il va mettre sa première claque, la deuxième. Après, ça va être en général des coups de poing, jusqu'à temps que je tombe par terre, des coups de pied. Et ce qu'il stoppe à chaque fois, c'est le sang. En fait, ça va être ma chance, c'est que cet homme-là, il supporte pas la vue du sang. Ça l'arrête, mais comme un automate, en fait. Il s'arrête tout de suite. De là, il fait toujours la même chose. Il me dit, écoute, je vais me laver, range toute la maison, et quand je redescends, prépare tes excuses, et je veux un sourire.
Cela va durer 4 ans. Un jour, Morgane porte plainte. En comparution immédiate, Yacine est condamné à 18 mois de prison. Il sort 6 mois plus tard pour bonne conduite, et immédiatement, il la harcèle. Parfois, quand elle rentre, il est là, assis dans le fauteuil. Alors, un jour, soutenu par une association qui lui donne le courage nécessaire, Morgane décide de s'enfuir, quitte ses proches, se retire des réseaux sociaux. Depuis, elle a refait sa vie. Mais comment les pouvoirs publics protègent-ils ces femmes des coups et de l'emprise? Comment les empêchent-elles de mourir et parfois de devenir elles-mêmes des assassins? Girls, you know you better watch out. Some guys are only about that thing, that thing.
Looking for your friend, the one you let hit it and never called you again. Remember when he told you he was about to Benjamins? Yeah. You act like you ain't him, they give him a little trim to begin. Now you think you really gon' pretend like you wasn't down and you called him again. Plus when you give it up so easy, you ain't even fooling him. If you did it then, then you probably can. Talking out your neck saying you're a Christian, a Muslim, sleeping with the gin. Now that was the sin that did Jezebel in. Who you gonna tell when the repercussions spin? Showing off your ass cause you thinking it's a trend, girlfriend. Let me break it down for you again. You know I only say it cause I'm truly genuine. Don't be a hard rock when you really are a gin, baby girl. Respect is just the minimum. Nigga, when you still defending them now? Lauren is only human. Don't think I haven't been through the same predicament. Let it sit inside your head. A million women in Philly pen. It's silly when girls sell their souls because it's sin. Look at where you be in. Hair weaves like Europeans. Fake nails done by Koreans. Come again. A win-win. Come again.
Certaines femmes aujourd'hui, il existe un endroit plus dangereux qu'une rue mal éclairée ou un parking souterrain. C'est leur propre foyer. Et l'homme, le plus susceptible de les maltraiter, de les violenter, n'est pas un étranger mais leur propre compagnon. L'homme avec qui elles vivent. C'est parce que trop d'hommes s'imaginent avoir tous les droits dans leur foyer que près de 2 millions de femmes sont battues régulièrement en France. La violence conjugale, comme toute autre forme de violence, est inacceptable.
Ce clip date de l'année 1989, une année charnière dans la lutte des pouvoirs publics qui diffusent leur première campagne contre les violences conjugales. C'est la secrétaire chargée des droits des femmes et de l'égalité des chances du gouvernement de Michel Rocard, Michel André, qui en est à l'initiative. À l'époque, on estime qu'un foyer sur 10 est concerné par les violences conjugales, ce qui touche près de 2 millions de femmes. En plus de la prévention, c'est sur le volet judiciaire que la secrétaire d'État avance des propositions de réforme. En 1989, seuls des coups dans le cadre d'un couple marié entraînant une incapacité totale de travail supérieure à 8 jours pouvaient donner lieu à des poursuites pénales. Sinon, l'affaire se réglait dans une procédure civile. Les violences contre les concubines, elles, étaient encore dans une zone grise. Ces femmes n'avaient aucun recours, aucun soutien. Il faut attendre l'année 94 avec l'entrée en vigueur du nouveau code pénal pour que les violences commises par le conjoint ou le concubin soient reconnues et considérées comme un délit. 10 ans plus tard, en 2004, une loi relative au divorce met en place une mesure d'éviction du conjoint violent du domicile conjugal. En 2006, l'arsenal législatif renforce la prévention et la répression des violences au sein du couple ou commises contre les mineurs. Cette nouvelle loi pénalise notamment le vol de documents indispensables à la vie quotidienne et élargit l'éloignement de l'auteur en étendant l'interdiction du domicile à tous les stades de la procédure pénale. En 2010, une loi votée à l'unanimité par les députés et les sénateurs donne de nouveaux moyens aux juges pour la prévention et s'appuie sur de nouveaux moyens technologiques pour renforcer la protection des femmes victimes de violences. En 2014, en France, une nouvelle loi dite pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes est votée. Elle a pour objectif d'améliorer la prévention et de renforcer les sanctions ainsi que d'accompagner mieux les victimes, femmes comme enfants. Malgré ces lois, un chiffre reste stable, celui des femmes tuées. 129 en 2013, 134 en 2014, 122 en 2015, 123 en 2016. Autrement dit, tous les 3 jours, une femme meurt sous les coups de son compagnon, mari ou ex. Combien d'entre elles ont porté plainte? Combien étaient-elles au courant de leurs droits? Alors, face à la situation, à la peur de mourir, certaines d'entre elles se font justice elles-mêmes. Ce fut le cas de Jacqueline Sauvage, qui tua son mari violent en 2012, mais aussi de Sylvie Leclerc, une femme de 53 ans, qui tua son mari, Gérard. C'était le 15 mai 2012. Ce soir-là, Gérard ne l'avait pas violée ou battue, et pourtant Sylvie Leclerc avait pris l'arme qu'il avait achetée 1 an plus tôt. Et puis, dans son sommeil, elle l'a tuée. Lors de son procès, qui s'est tenu 4 ans après les faits, ses avocates, les mêmes que celles de Jacqueline Sauvage, ont indiqué qu'il s'agissait d'un geste de survie libérateur, après 35 années émaillées de violences physiques, mais surtout d'une emprise psychologique. Une emprise évoquée par la filleule de Sylvie Leclerc dans le documentaire « Au nom des femmes », produit par Electric Productions et réalisé par Xavier Deleu.
Depuis qu'elle est incarcérée et que j'ai découvert plein de choses sur elle, tout me choque parce que c'est d'avoir accepté de vivre comme ça pendant des années, de se faire violer parce qu'elle s'est fait violer, de se faire taper dessus, de se faire insulter, de l'obliger à se prostituer, parce que c'est ce qui s'est passé. Enfin, en fait, c'était un gourou. C'était un gourou et il l'a gouroutisé. Et je sais pas si ça se dit, mais il fallait qu'elle se sauve. Et elle a trouvé que ça comme issue de secours. On n'a pas le droit de faire justice soi-même, mais comment on fait? Et pas que elle, même toutes les autres femmes, parce qu'il y en a plein, c'est sûr. Comment ils arrivent à les tenir dans une bulle? Je sais pas comment ils font, ces hommes-là. Je sais pas. Mais ils en viennent à faire une personne qui est formidable, une tueuse.
Le viol conjugal, l'une des violences taboues subies par les femmes. Tabou en effet, car comment prouver le crime dans le huis clos d'une chambre? On estime pourtant que 37% des viols sont commis au sein même du couple. 31 000 femmes environ sont victimes chaque année de cette violence-là. En 2015, seulement 1840 d'entre elles ont déposé plainte. 46 violeurs conjugaux seront par la suite condamnés. Pour Sylvie, il a fallu attendre la mort de son mari pour qu'elle parle de ces nuits durant lesquelles il l'a réveillée parfois jusqu'à 10 fois pour son plaisir sexuel, pour qu'elle évoque ses rapports imposés, interminables et quotidiens. La violence était sexuelle, physique, psychologique. Certains avaient vu la détresse de Sylvie, dont sa sœur. Pourtant, comme les victimes, les proches sont souvent dépourvus eux aussi.
C'est facile à dire « Pourquoi vous avez rien fait ?» C'est facile quand on est de l'extérieur. Quand vous êtes dedans, ben vous êtes coincé. Autant que ma sœur, pareil, on est coincé parce qu'on a peur, trop peur pour elle. C'est facile de dire, pourquoi vous avez rien fait? Pourquoi vous n'avez pas alarmé? Pourquoi? Parce qu'on a peur. Ça faut comprendre.
Lors du procès, on a fait état de la vie de Sylvie Leclerc, d'une enfance fracassée par une mère alcoolique et de beau-père violent. Sa vie commune avec Gérard? Selon elle, il passait son temps à l'insulter, à l'humilier. À la barre, on entend les mots de Aude, sa fille. Je pense que c'était la seule issue pour ma mère et qu'elle a bien fait de faire ce qu'elle a fait. Il me faisait très peur, même s'il ne m'a jamais frappé. Sylvie a décidé de quitter son mari violent, mais comme d'autres, après quelques mois, elle est revenue dans son ancien foyer. S'agissait-il d'une emprise? L'un des experts psychiatres a préféré parler de syndrome d'otage. À bas bruit, sans qu'elle en ait complètement conscience, parce que sa personnalité est fragile et en manque de consistance, et bien Sylvie Leclerc s'est progressivement enlisée et enfermée. Il conclut, comme l'autre expert, que Sylvie souffrait de troubles psychiques susceptibles d'avoir altéré son discernement. Pénalement irresponsable, elle ne risque plus la perpétuité. Le 24 mars 2016, les jurés de la cour d'assises de Meurthe-et-Moselle suivent les réquisitions du parquet. Sylvie Leclerc est condamnée à 9 ans de prison pour le meurtre de son mari. Sylvie était pourtant en danger de mort et personne n'a pu lui apporter son aide. Alors, elle a appliqué sa propre justice. Puis, la justice, l'officielle, l'a condamnée non pas à la peine maximale, mais à une peine tout de même, parce qu'elle avait tué. Dans 3 jours, une nouvelle femme mourra sous les coups de son compagnon, et ainsi de suite, tous les 3 jours. Comment arrêter ce décompte infernal?
Il a plus des lames de rasoir sur mon cœur quand tu es parti. L'espoir chevillé à mon âme, je refuse de lâcher prise. Oh, regarde-moi ma jolie, oh, viens dans mes bras ma jolie. Oh, regarde-moi ma jolie, oh, ne fais pas ça ma jolie. J'achèterai un sac Gucci et tes amis t'en diront, surtout celle qui t'avait dit fais attention ce mec a pas.
Inter, affaires sensibles, Fabrice Drouel.
Aujourd'hui, les violences conjugales. Notre invitée Françoise Brier, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directrice de la Fédération Nationale Solidarité Femmes et membre du Haut Conseil à l'égalité et aussi, j'en profite pour le dire, de la mission interministérielle pour la protection des femmes victimes de violences. Tout d'abord, cette Fédération Nationale Solidarité Femmes, donc c'est un réseau dans lequel se trouvent toujours les organisations dont on a parlé, Flora Tristan, SOS Femmes Alternatives, elles travaillent avec vous?
Tout à fait, ce sont les associations qui ont créé à la fin des années 70, la Fédération Nationale Solidarité Femmes. Et c'est vrai que le premier centre d'hébergement, il était à Clichy dans le 92, il était tenu par Flora Tristan, puis il y avait d'autres SOS Femmes, voilà, qui ont décidé un jour de se réunir, justement pour être une force de lobby et de pression sur les pouvoirs publics pour aider et accompagner les femmes victimes de violences en modifiant les lois, mais aussi en créant des dispositifs spécialisés pour ces femmes.
Donc ça, c'est le travail de fond. Il y a le travail d'accueil aussi. Comment ça se passe concrètement?
Alors déjà, vous avez un numéro d'écoute qui est le 3919, hein, qui est le numéro national qui s'adresse à toutes les femmes victimes de violences, mais qui sont principalement des violences conjugales. Il faut savoir qu'à la fin des années 80, effectivement, vous avez parlé de Michel André, ce sont aussi avec Michel André qu'il y a eu cette première campagne de communication. Et en 92, suite à cette campagne de communication qui va montrer des milliers d'appels et créer la première ligne d'écoute pour les femmes victimes de violences, qui deviendra donc le 3919 un petit peu plus tard. Et puis à côté de ce numéro d'écoute, vous avez tous les lieux d'écoute et d'accueil qui sont en fait souvent les premiers lieux vers lesquels les femmes vont être orientées et s'adresser. Vous avez des professionnels qui sont à l'intérieur de ces lieux d'écoute, qui sont des psychologues, des juristes, des assistantes sociales, particulièrement bien formées, qui vont accompagner les femmes vers la sortie de la violence et la sortie de l'emprise dont vous avez parlé, mais aussi en essayant de lever tous les freins à cette sortie de la violence. Donc il y a tout ce travail autour de l'emprise, mais il y a aussi les autres freins, c'est-à-dire les conditions socio-économiques qui peuvent être parfois extrêmement compliquées, les questions juridiques, et donc elles vont être le cœur un petit peu d'un réseau qu'elles vont installer autour des femmes avec un travail auprès des services de police, auprès des assistantes sociales de secteur, auprès des professionnels de santé, auprès du tribunal. Et c'est à partir de là aussi qu'elles vont évaluer le danger et pouvoir très souvent orienter des femmes vers les services d'hébergement qui sont souvent des structures dédiées pour ces femmes victimes de violences. Et donc on a attendu des témoignages qui rappellent finalement ce qu'on entend encore aujourd'hui dans ces lieux d'écoute, d'accueil et dans ces centres d'hébergement.
Reste beaucoup à faire, c'est vrai, mais on voit quand même en écoutant ce que vous dites, les progrès, heureusement, hein, qui ont été faits par rapport à des temps qui ne sont pourtant pas immémoriaux, qui ne sont pas si loin que ça, mais il y a eu de vrais progrès. Est-ce qu'on peut se satisfaire des progrès qui ont été faits, si on les met en rapport avec les chiffres qu'on citait tout à l'heure, enfin, ces femmes qui continuent à être battues et parfois on lit à une nouvelle, dans 3 jours, une femme mourra sous les coups de son compagnon. Je sais, c'est statistique, mais il y a presque une dichotomie entre ces progrès qu'on fait et ce constat qui est encore terrible.
Oui, il y a quand même eu beaucoup de dispositifs qui ont été mis en place, il y a eu des financements, il y a eu des législations qui ont avancé, on est tout à fait d'accord. Après, je pense qu'il y a encore une méconnaissance de ce phénomène, et surtout les associations ont pendant longtemps cherché à faire sortir la violence conjugale de la sphère privée pour la mettre sur la place publique. Oui. Ça, c'est encore parfois compliqué à gérer pour les professionnels et pour d'autres personnes qui entendent ces femmes victimes de violences et qui se disent finalement ça me regarde pas, ça reste dans la sphère privée, je ne veux pas m'en occuper. Voilà, on avance quand même vers un mieux, vers un meilleur repérage. Après, je pense qu'il y a encore une difficulté dans le travail en réseau et dans le partenariat autour de ces situations de femmes en très grave danger.
C'est-à-dire
qu'il faut que les associations travaillent avec les tribunaux, avec les services de police, avec tous les autres partenaires autour de ces situations en extrême danger. Parce qu'une femme victime de violence, elle peut être en danger à n'importe quel moment dans son histoire de violence. Donc il faut vraiment avoir des équipes très spécialisées qui peuvent, autour de cette femme, instaurer finalement des protections, soit de l'hébergement, soit une ordonnance de protection, soit un téléphone grave danger, mais surtout être très très réactif. Il y a cette première question, et puis il y a la deuxième question, c'est la question du repérage. Parce qu'on a vu dans les témoignages qui ont été sur votre antenne que des femmes, finalement, parfois n'osent pas parler, elles sont dans la peur, dans la honte, et donc elles restent dans cette violence pendant très longtemps. Oui. C'est là où va être le rôle des premiers professionnels qui vont rencontrer ces femmes, de pouvoir poser des questions systématiques et d'arriver ensuite à les orienter.
Est-ce qu'on a passé le cap? Pardon de vous couper, mais parfois, on a beaucoup de choses à se dire. Est-ce qu'on a passé le cap psychologique et psychosocial, je dirais, qu'on avait retrouvé, d'ailleurs, en parallèle avec la violence faite aux enfants? Ça se rejoint quelquefois, mais je parle des violences faites aux enfants, où il y avait cette mentalité des pouvoirs publics qui disaient, mais la sphère publique n'a pas entré dans l'intimité familiale. Ça, c'est un fléau, finalement, comme raisonnement. Hein. On en est sorti de ça, hein, ou pas?
On commence à en sortir grâce aux campagnes de communication qui sont menées, mais voilà, il y a encore un peu d'omerta autour de cette affaire privée, finalement. Ça doit rester dans la famille. Puis il faut quand même se dire que C'est la sphère de l'intimité aussi dans un couple. Hein. Donc les femmes ont parfois du mal aussi à sortir de cette question d'affaires privées, surtout quand elles reçoivent des injonctions contradictoires de l'extérieur. On le voit régulièrement, c'est-à-dire qu'on peut très bien, mais c'est ton mari, il est dans une situation socio-économique parfaite, voilà, pourquoi tu vas le quitter? On entend ça aussi parfois des services de police, hein, pas tout le temps, parce que je pense qu'il y a aussi dans les services de police et de gendarmerie des professionnels qui font aussi très bien leurs actions, mais on a aussi un certain nombre de plaintes qui sont pas prises parce que finalement, voilà, il faut pas non plus exagérer, vous allez mettre votre mari en prison, il va être en garde à vue, qu'est-ce qui va se passer derrière? Vous savez, un viol, finalement, c'est un crime, il va être condamné à 20 ans de prison. Donc voilà, ces femmes, on leur renvoie aussi ces injonctions contradictoires. Ouais. Et elles, qui sont déjà dans l'emprise, qui sont déjà dans la peur, dans la honte, vont avoir encore plus de difficultés à
avec
partir.
La culpabilité, pour le coup.
Avec la culpabilité, bien sûr.
Est-ce qu'il y a une sociologie de ce fléau? Parce que j'ai l'impression que ça touche tous les milieux, c'est ce qu'on disait hein, dans le récit. Mmh. Vous confirmez, ça touche tous les milieux.
Ça touche tous les milieux socio-économiques. Mmh. Après, je pense qu'il faut regarder aussi, c'est l'histoire de vie de ces femmes. C'est-à-dire que plus il y a eu de violence dans l'enfance, à l'adolescence, et puis très tôt dans la relation de couple, plus la sortie de la violence va être difficile. Mais on peut très bien avoir une femme qui n'a jamais connu de violence dans sa vie et qui va être victime aussi de violence. Moi, je me souviens d'une jeune femme qui disait « Mais je ne comprends pas, 3 ans après, qu'est-ce que je suis devenue ? J'ai jamais eu de violence dans ma vie. Et là, aujourd'hui, j'ai perdu mon travail, j'ai plus d'amis, ma famille ne veut plus me voir, je suis complètement isolée. » Et donc, mais elle était dans la violence depuis 2 ans seulement. Elle a réussi très vite à s'en sortir.
Vous dites depuis 2 ans seulement, hors 2 ans effectivement, c'est très long. Mais par rapport à tout ce que des femmes ont caché pendant des années, je comprends vos discours, mais même 2 ans, c'est
tout à fait très long. C'est très long. Et justement, elle ne comprenait pas ce qui s'était passé, et il a fallu effectivement retisser un petit peu son histoire dans cette violence avec cet auteur de violence. Et démontrer que depuis le début de la relation, il y avait des violences psychologiques, verbales, des insultes dont elle ne s'était pas vraiment rendue compte. Cette question de la jalousie aussi que vous avez évoquée. Et puis vous avez des femmes qui vont avoir un parcours de vie dans la violence très jeune et qui vont vivre 10, 15 ans, 20 ans. On a vu aussi ces exemples dans la violence et ne pouvant pas, en tous les cas, n'ayant pas trouvé les ressources extérieures pour pouvoir quitter l'agresseur.
Quels sont nos devoirs civiques? Alors, pas vous, parce que vous êtes spécialisé dans la lutte contre ce fléau et le soutien des victimes, mais nous, tout un chacun, qu'est-ce qu'on a comme devoir civique en société? On doit pouvoir repérer une femme qui va mal, lui parler. Qu'est-ce qu'on peut faire? Sans aller dans la délation. Là, ça devient compliqué, parce qu'on peut... La frontière entre la conscience civique et la délation est parfois un peu ténue, un peu poreuse. Qu'est-ce qu'on peut faire, finalement?
Bah déjà, je pense qu'il faut, à partir de, je dirais, d'antennes, observer un petit peu ce qui se passe autour de nous. Quand vous êtes dans une soirée où vous avez quelqu'un qui commence à mal parler à sa conjointe ou à sa copine ou à l'insulter ou à dire des choses un peu désagréables, dénigrées, il faut se poser la question, tiens, c'est un peu étrange ce qui se passe là. Et peut-être à ce moment-là, éventuellement, parler à cette femme de façon confidentielle, sans son conjoint, en disant, tiens, comment ça se passe? Est-ce qu'il y a quelque chose qui ne va pas à la maison? Est-ce que tu veux m'en parler? Voilà, ça, ce sont des petits éléments. Je crois qu'il faut vraiment avoir des antennes. Il ne faut pas hésiter à intervenir non plus si on voit une femme victime de violence dans la rue ou dans l'espace public, dans le travail, dans les transports, voilà, se mobiliser aussi chacun et chacune pour dire, écoutez, qu'est-ce qui se passe, voilà, et d'intervenir dans cette relation, voire d'appeler les services de police, enfin, voilà, il y a aujourd'hui de donner un numéro de téléphone, enfin, il y a des moyens d'intervenir qui sont possibles. Après, voilà, il faut laisser la victime aussi aller à son rythme. Quand on est un proche d'une femme victime de violence, il ne faut pas se décourager. Les femmes ont du mal à partir. On compte à peu près 10 allers-retours au domicile. Oui. Toujours laisser sa porte ouverte. Évidemment, pour les voisins, il faut pouvoir appeler les services de police quand éventuellement il y a du bruit, de la violence. Et ça, on l'entend souvent, hein, des interventions grâce aux proches ou grâce aux voisins. Voilà, tous ces éléments qui font que la société entière, finalement, doit
se sentir concernée
par ces violences.
Pourquoi l'Espagne a souvent été montrée en exemple, notamment à la suite d'une loi votée dans ce pays en 2004, c'est ça? Qu'est-ce que les Espagnols ont mieux compris que nous et en quoi sont-ils plus efficaces?
Alors, les Espagnols ont placé la question des violences faites aux femmes dans une loi, ce qu'ils appellent la loi globale, c'est-à-dire qu'ils ont considéré que les violences à l'encontre des femmes, c'était dû aux inégalités femmes-hommes, et au sexisme. Mmh. Et ce qui fait qu'à partir de là, toute la tout le parcours des femmes finalement est comprise dans ces violences sexistes. Et donc ils ont mis en place des tribunaux spécialisés, vous avez des magistrats spécialisés qui ne traitent que d'affaires de violence à l'encontre des femmes. Ils prennent en compte également tout ce qui peut être autour sur les questions économiques. Par exemple, dernièrement, ils ont prévu qu'une femme, quand elle perd son emploi, aura un certain nombre d'aides. La question des enfants aussi, qui est aussi au cœur du dispositif.
On va y venir. Oui.
Voilà. Donc,
pragmatique finalement. C'est très pragmatique, voilà, c'est de bon sens.
Et je pense que la question de la spécialisation aussi. C'est important que tous les professionnels soient formés au repérage des violences. Mais après, une fois que les violences sont repérées, il faut vraiment des spécialistes pour traiter ces questions de violence au regard de la sécurité et du danger qui existe. Donc on les a parfois dans les services de police, mais ils sont pas assez nombreux et souvent, pas assez formés. Vous les avez aussi parfois au niveau de certains tribunaux, avec des magistrats qui sont particulièrement spécialisés dans la question des violences conjugales. Vous pouvez aussi avoir des médecins référents et vous avez les associations spécialisées. Voilà, je pense que cette spécialisation, en tous les cas sur les femmes en très grave danger, c'est essentiel.
Vous avez parlé des enfants et je comptais venir précisément. En 2015, 36 enfants sont morts concomitamment à l'homicide ou à la tentative d'homicide de leur père ou de leur mère. Je vous propose d'écouter un extrait des déclarations de cette femme qui était témoin des violences de son père contre sa mère. C'était en 1975.
Je me rappelle qu'une fois, mon père a décrété que le pain était trop dur. Il s'est levé, a pris le pain, l'a lancé par la fenêtre, a renversé la table. Ma mère a poussé un haut parce qu'elle était un peu indignée et il s'est mis à la taper. Ça a duré durant toute mon enfance jusqu'à l'âge de 10 ans. Nous avions l'impression qu'elle essayait d'échapper au coup, qu'elle essayait de s'enfuir. Dans ces cas-là, il la rattrapait par les cheveux, il la traînait sur des mètres, mais qu'elle ne se défendait pas réellement, c'est-à-dire qu'elle n'essayait pas elle-même de donner des coups. Et nous le lui demandions, et elle nous répondait systématiquement, ce n'est pas bien d'avoir de telles pensées, on ne doit pas dire de telles choses. Moi, j'essayais de la défendre, et je tiens à le préciser, mon père ne m'a jamais battue. Mais quand je l'empêchais de battre ma mère, il voulait se dégager de ma pression, et il me repoussait. Violemment, bien entendu, puisqu'il était en colère.
On imagine mal que des enfants témoins de violence conjugale n'est pas de séquelles psychologiques, évidemment. Qu'est-ce qu'on sait de l'impact de ces violences sur les enfants et sur ce qu'ils deviennent aussi? Deviennent-ils parfois aussi, pour des garçons qui deviennent des hommes, des maris violents? Il y a deux questions dans ma question.
Oui, alors les enfants sont toujours impactés par les violences conjugales, qu'ils soient exposés à ces violences, c'est-à-dire pas victimes de violences directes ou victimes de violences directes, parce qu'il faut, pour avoir travaillé avec un certain nombre de services d'aide sociale à l'enfance, certains services disent maintenant qu'effectivement, en repérant un peu mieux ces enfants, ils s'aperçoivent qu'il y a beaucoup de violences conjugales parmi les enfants maltraités directement. Donc ça, c'est une première chose. Les enfants, ils sont aussi impactés que leur mère. Ça veut dire qu'ils ont des troubles du stress post-traumatique comme leur mère. Parfois, une incapacité aussi à réagir. Ils ont peur, ils ont honte. Derrière, les conséquences, ce sont des conséquences scolaires. Comment on peut penser qu'un enfant qui voit des violences à l'encontre de sa mère le soir va être concentré à l'école le lendemain
matin?
Bien sûr, c'est impossible.
On peut l'imaginer, évidemment.
On observe des conséquences dramatiques sur ces enfants. Donc, ils sont dans un état psychologique, physique, très, très dégradé. Donc, il faut s'occuper de ces enfants. Il faut leur permettre aussi d'avoir accès à la fois à des activités. Dans nos centres d'accueil et d'écoute et d'hébergement, on a ces activités collectives pour ces enfants, pour leur permettre d'exprimer leurs paroles, etc. Et il faut aussi leur permettre, à un moment donné, de sortir de la violence avec leur mère. Et donc, l'idée, c'est aussi de les mettre en sécurité avec leur mère dans ces centres d'hébergement le plus rapidement possible. Ça, c'est une première chose. Je pense qu'aujourd'hui, en France, on a encore un peu des difficultés et des améliorations à porter sur cette question. Parce que la séparation n'arrête pas les violences. Donc, les enfants sont à la fois impactés pendant que leur mère est effectivement victime de violences directes, mais derrière, l'agresseur va utiliser les enfants pour poursuivre les violences. Et ils continuent à être impactés pendant des années. La séparation, à un moment donné, si elle n'est pas... si elle ne se déroule pas dans des procédures civiles, on va prendre en compte les violences conjugales et donc confier l'enfant à la mère.
Oui.
et éviter que l'agresseur ait des contacts directs avec eux pendant un certain temps, en tous les cas encadrer ses droits de visite et d'hébergement, les limiter aussi parfois, on va se retrouver avec des violences post-séparation qui vont perdurer des années et continuer à mettre ses enfants dans des situations dramatiques.
Et est-ce qu'on a vu parfois des corrélations entre maris violents qui auraient été des petits garçons dont le père lui aussi avait été violent ou pas ?
Oui, il y a bien sûr des enfants qui ont été élevés dans la violence et qui vont, à l'âge adulte, reproduire. Mais on a aussi des enfants qui vont devenir victimes. C'est-à-dire des enfants qui, à force d'avoir vu leur mère victime de violence, vont être aussi dans une position de victime à l'école, à l'extérieur, et vont être aussi en grande difficulté. Alors, heureusement, on ne va pas non plus systématiser, mais voilà, ça fait partie aussi des risques à l'âge adulte de reproduire ces situations de violence.
Une autre violence conjugale, parce que c'est pas un autre sujet, c'est dans le sujet, c'est la question du viol conjugal. On l'a abordé pendant le récit. Je vous propose d'écouter un extrait maintenant d'un reportage d'Alice Gauvin et de Julien Abbasbza. Il s'agit du témoignage de Nadège qui a lancé une procédure contre son ancien compagnon avec d'autres femmes, elles aussi victimes de cet homme.
Et là, j'arrive dans la chambre, et là, il m'attrape par les cheveux et tout. Il me dit, ouais, tu veux te conduire comme un bonhomme machin, rester dans le salon, pas venir te coucher quand moi je vais me coucher. Il me dit, c'est moi qui décide ici et tout. Il me dit, de toute façon, t'es qu'une pute, t'es une salope. Il me dit, bah là, je vais te montrer comment t'es une salope et tout, t'es machin. Il me dit, bah là, je vais bien te prendre comme une salope. Et j'étais enceinte de 8 mois, un truc comme ça. Donc, il n'y a pas eu de préliminaire de tout ça. Il est allé direct par derrière et j'avais beau hurler... de douleur, de désarroi, de je ne sais pas, de tout. Et bon, en fait, il continuait. Au début, je me débattais en fait à mettre mes mains et tout, à essayer de le retenir et tout. Et en fait, après, ben, j'avais plus la force du tout parce que là, il était en train de me tuer en fait. Voilà. Et après, ben, il a fini et il me dit de toute façon, t'avais beau gueuler, il me dit j'en suis sûr que t'as aimé. Voilà.
Voilà, on donne la priorité au témoignage, parce qu'il n'y a pas parole plus forte et plus légitime que celle de ces femmes qui ont été victimes. Rendez-vous compte que 37% des viols sont commis au sein même du couple. Alors là, on est encore plus dans le tabou, parce qu'on est dans l'intimité de l'intimité. Comment on en sort de ça ?
Eh bien, je pense que c'est très difficile pour les femmes victimes de violences conjugales de parler d'abord du viol, mais il faut qu'elles en parlent. Et c'est important d'expliquer, en tous les cas, dans ces moments où elles vont être dans des lieux confidentiels, de pouvoir parler de ces violences sexuelles qui sont extrêmement traumatisantes. Dans nos centres d'hébergement, souvent les femmes en parlent après plusieurs mois d'hébergement où elles ont confiance. Donc voilà, c'est quand même un sujet très tabou, mais il faut vraiment avancer sur cette thématique. C'était le devoir conjugal. Donc, voilà, on a encore, effectivement, comme vous le dites, ces stéréotypes. Et puis surtout, il faut aussi que ce soit vraiment reconnu par la loi et dans l'application des lois. Déjà, il faut supprimer les délais de prescription, il faut que les femmes puissent aller en justice, rester en justice très longtemps après. Il faut pouvoir aussi que ça s'applique aux ex-conjoints et concubins, ce qui n'est pas encore le cas. Et il faut pouvoir permettre aussi une reconstruction suite à ces viols.
Bah, le législateur a fait des progrès, apparemment il a encore du travail.
Oui, merci. Et surtout dans l'application des lois.
Merci infiniment, Françoise Brié, pour toutes les précisions que vous nous avez apportées sur ce sujet douloureux des violences conjugales. Merci, au revoir.
Merci.
C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, les violences conjugales, une émission que vous pouvez réécouter en podcast sur franceinter.fr. Rendez-vous également sur la page Facebook d'Affaires Sensibles. Demain, nous évoquerons les attentats de la rue Copernic à Paris en octobre 1980.